for fun. En tête à tête avec Caroline Delage. Bonsoir à tous, il est 21h, vous êtes sur Just for Fun dans l'émission En tête à tête avec. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir une femme, une journaliste, une productrice et une animatrice de télévision et de radio. Elle a créé l'émission Au tableau et depuis 2017, elle est aux côtés de William Lémergie chaque midi dans l'émission William à midi. Caroline Delage, bonjour.
Bonjour Mathéo.
Merci d'avoir accepté cette invitation.
Mais avec plaisir, c'est moi qui vous remercie.
Je suis ravie de vous recevoir dans cette émission pour une interview.
Alors, je vous écoute.
Alors, ma première question. En 1998, vous avez étudié à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, où vous êtes sorti diplômé en 2002 majeur de promotion. En 2002, vous êtes installé à Paris et vous avez intégré le Centre de formation des journalistes. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous diriger vers une voie journalistique ?
Oh, ça faisait très longtemps que je savais que je voulais devenir journaliste, depuis le collège, je crois, ou en tout cas depuis le lycée. Il y a d'abord cette façon d'être quelque part un transmetteur, un intermédiaire entre un fait, une information, ce qui se passe et le public. C'était quelque chose qui me plaisait beaucoup comme rôle. Je trouvais que ça avait une utilité dans la société, donc... c'est un métier qui m'a beaucoup attirée, et puis l'aspect évidemment où la diversité des sujets, la richesse des sujets traités, ma curiosité, mon goût pour plein de choses différentes, et puis aussi un petit peu un goût du spectacle, parce que j'ai toujours fait depuis toute petite beaucoup de danse, mais surtout beaucoup de scènes, parce que je faisais partie d'une petite troupe familiale où on se produisait beaucoup. Et dans le journalisme, et notamment à la radio ou à la télé, il y a quand même aussi un petit côté spectacle qui m'attirait aussi.
Et qu'est-ce que vous aimez dans votre métier aujourd'hui ?
Ah, aujourd'hui, j'ai l'impression de faire plusieurs métiers en un. J'ai toujours ce métier de journaliste, présentatrice, donc intermédiaire entre l'information et le public, puisque je présente le journal tous les jours dans l'émission de William Lémergie, qui s'appelle William à midi sur C8. Donc ça, c'est un rôle qui me tient beaucoup à cœur, et il y a un vrai travail d'écriture que j'adore, la façon évidemment, le choix des mots, la façon de présenter l'information, aussi la volonté de mettre en valeur le travail des reporters sur le terrain. C'est le rôle du présentateur, hein, il passe les plats comme on dit, et il met en valeur le travail des gens qui sont sur le terrain. Donc ça, c'est un côté journaliste brut qui me plaît toujours énormément, qui est mon premier métier. Et puis, en tant que productrice, je reste journaliste, parce que pour moi, c'est plus qu'un métier, c'est plus une façon d'être, en fait, un état. Mais là, avec un regard, souvent en faisant un pas de côté, plus approfondi, en prenant plus le temps, et toujours avec ce besoin de ressentir une utilité sociale. Donc, je m'intéresse à des sujets... qui pour moi ont un enjeu sociétal très important, et j'essaye de proposer des solutions.
Et donc vous avez différentes casquettes, puisque vous êtes journaliste, productrice, mais aussi animatrice de télévision et de radio. Laquelle vous préférez ?
C'est difficile de choisir, c'est pour ça que je les fais toutes en même temps. Ça me donne des journées bien remplies. Non, c'est difficile, j'aime beaucoup cet équilibre. Justement, et le fait de faire plusieurs choses, donc c'est pour ça que pour l'instant je n'ai pas choisi et que je cumule un petit peu. Ce qui me manque un peu, c'est la radio, parce qu'aujourd'hui je suis journaliste uniquement à la télé, alors que j'ai commencé en radio et que j'aime beaucoup ce média. J'aimerais beaucoup y retourner aussi, pas abandonner la télé, au contraire, mais faire de la radio comme vous aussi un peu plus, même si j'y vais de temps en temps, notamment pour défendre mes programmes. On me fait l'amitié de m'inviter parfois sur Europe 1, sur France Info, sur RTL pour présenter mes programmes, et je prends toujours beaucoup de plaisir à ce média, à radio que j'adore.
Et depuis 2017, vous êtes chaque midi sur C8 aux côtés de William Lémergie dans l'émission William à midi. Comment êtes-vous arrivé dans cette émission ?
J'étais déjà dans le groupe Canal depuis longtemps. J'ai commencé à travailler avec le groupe Canal Plus quand j'étais correspondante à Jérusalem. Je travaillais pour iTélé à l'époque et Canal tous les jours en tant que correspondante. Et puis quand je suis rentrée à Paris, j'ai continué à être sur iTélé tous les jours. Je présentais différentes tranches d'informations. Donc C8 appartient aussi au groupe Canal. C'est la chaîne généraliste du groupe Canal+. Et quand l'émission, quand William a quitté France 2 pour arriver sur C8, et que cette émission a commencé à se préparer, il recherchait quelqu'un pour présenter le journal dans son émission, on s'est rencontrés et puis ça a tout de suite matché. On a eu le feeling tout de suite. Donc voilà, il a eu envie que ce soit moi qui présente le journal et moi j'avais très envie de travailler avec lui. Donc j'ai juste, je suis pas allée très loin. Enfin, j'ai quand même changé de bâtiment parce que ITL, CNews et C8 n'étaient pas dans le même bâtiment, mais je suis pas allée très loin. Je suis restée dans le groupe. Et ça fait 4 ans maintenant que je pars.
Et comment est-ce que vous préparez votre journal chaque jour?
Eh bien, je fais le tour de l'information. Enfin, quand on est journaliste, on s'informe en permanence. Donc j'arrive assez informée quand même des sujets du jour. J'écoute beaucoup la radio le matin. Éventuellement, je regarde la télé, je lis les journaux. Je regarde les dépêches AFP. Enfin, je m'informe comme tous les journalistes. Et puis ensuite, on fait le point avec... en fait, à C8, il n'y a pas de rédaction à proprement parler. On s'appuie sur les moyens techniques de CNews pour faire le journal. Donc je fais le point avec... une équipe qui, elle, est physiquement à CNews pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'on va mettre dans le journal, quels sont les reportages qu'on va choisir, quels sont les journalistes qu'on va prendre en direct, etc. On construit le journal ensemble au téléphone, parce qu'on est physiquement pas au même endroit. Et puis ensuite, eh bien, il faut, c'est tout le travail d'écriture pour lancer, enfin, écrire tous les lancements, ou les brèves, ou etc. C'est un dialogue avec William, ce journal, donc, c'est une écriture très différente de ce que j'ai fait jusqu'ici, où quand je présentais seule. C'est ça qui m'a plu aussi quand il est venu me proposer de faire ce journal, c'était cette écriture différente, le dialogue avec William, et puis un ton qui se prend pas au sérieux, très décontracté, même si bien sûr c'est sérieux puisqu'on traite de l'information et elle est franchement pas drôle l'information ces derniers temps, mais voilà, un ton assez simple et décontracté. Et bah voilà, donc toute la matinée je prépare jusqu'à midi à peu près, où là je vais au maquillage, coiffure et habillage avant de prendre l'antenne à 12h45. Mais c'est un travail qui s'arrête jamais, et surtout comme l'actualité continue à évoluer, parfois même quand je suis au maquillage, bah il faut réécrire certains trucs, ou parfois c'est de l'improvisation parce que ça a changé au dernier moment. Enfin voilà.
Oui, c'est de l'info en temps réel, donc s'il y a quelque chose qui change au dernier moment, il faut le changer pour être dans l'actualité.
Bah oui, on réécrit tout le temps. Enfin, le journal n'est jamais fini jusqu'à ce que je sois à l'antenne, en fait. Bon, heureusement, ça change pas à 100% tous les jours, sinon ce serait un peu fatigant, mais il m'est déjà arrivé, par exemple, quand on a appris la mort de Jacques Chirac, c'est tombé à 12h02, je crois. J'étais en retard pour aller au maquillage, coiffure, pour me préparer, pour prendre l'antenne à 12h45, et là, l'alerte tombe de la mort de Chirac. Et donc là, vous prenez votre journal et vous le jetez à la poubelle, parce qu'évidemment... on n'allait pas parler d'autre chose que la mort de Jacques Chirac. Oui. Et il a fallu tout réécrire en un temps très... parce que l'heure de la prise d'antenne, elle change pas. On reste à 12h45. Donc voilà, il y a des fois où c'est un peu plus sportif que d'autres. Des fois où ça change moins quand même, heureusement.
Il faut s'adapter à l'actualité, quoi.
Ah bah, faut la suivre, oui. C'est une matière vivante, hein, l'actualité. Donc on réécrit en permanence, on ajuste, ou parfois l'actualité qui change, mais... le reportage n'est pas prêt, donc il faut qu'on change, qu'on revoie notre conducteur. Et parfois, il tombe en effet des choses. Parfois, il m'arrive de dire des choses à l'antenne que je n'ai pas écrites, parce que ça tombe, j'improvise, je donne l'information quand elle arrive.
Alors, dans quelques instants, ce sera la deuxième partie de cette émission avec vous, Caroline Delage. Et dans cette deuxième partie, on va plus se concentrer sur l'émission que vous avez créée au tableau. Mais avant cela, c'est le moment d'une pause musicale sur Just for Fun. À tout de suite.
T'en sais rien, oh, t'en sais rien. Jusqu'où tiendra le mirage, l'illusion que tout va bien. Mais t'en sais rien, oh, t'en sais rien. Tu souris comme une image, est-ce au diable ou au saint? Le faux comme une flèche qu'on décoche, blesse ceux qui tenteraient une approche. Mais jusqu'ici tout va bien, d'ici on ne voit rien. Jusqu'ici tout va bien, d'ici on ne voit, d'ici on ne voit, d'ici on ne voit rien. Tu en joues, ouais, tu en joues. Des ombres chinoises, des nuits à crier au loup, ouais. tout ce qui tenterait une approche. Mais jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit rien. Jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit. D'ici on ne voit. D'ici on ne voit rien. Tout va. Rien ne se voit. Tout va. Tout va. Rien ne se voit. Rien ne se voit. Oh, d'ici on. Jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit rien. Jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit. D'ici on ne voit. D'ici on ne voit rien. D'ici on ne voit rien. Jusqu'ici tout va bien. D'ici on. Jusqu'ici tout va bien.
Nous sommes de retour sur Just for Fun. Vous êtes toujours dans l'émission en tête à tête avec. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être avec Caroline Delage. Est-ce que ça va toujours, Caroline ?
Ça va toujours. Je suis toujours là.
Alors, dans cette deuxième partie, comme je l'ai dit juste avant la musique, nous allons plus se concentrer sur l'émission que vous avez créée Au Tableau. Puisqu'en 2017, vous avez créé cette émission Au Tableau. Dans cette émission, des personnalités passent au tableau et se font interviewer par des enfants qui ont entre 8 et 12 ans. Voici un extrait.
Bonjour, monsieur Mélenchon.
Moi, c'est Emmanuel Macron. Je suis candidat aux élections présidentielles.
Ça vous embête si je tombe la veste parce qu'il fait un peu chaud là, non?
Non, c'est bon.
Ça vous fait quoi de revenir à l'école, monsieur Mélenchon?
J'ai pas trop envie de recommencer les devoirs et tout ça, non.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer au tableau la différence entre la droite et la gauche?
Ah oui, vous êtes comme ça, vous.
Top chrono.
Attends. Alors, donc la droite.
Mes épluchures dans le bleu, bouteille, carton à aluminium.
Le podium, vous l'avez mis où?
Avec l'aluminium.
C'est faux.
Vous avez des points en commun avec Marine Le Pen ?
Entre elle et moi, il y a un fossé. Et ce fossé s'appelle l'égalité humaine.
Descriptif. C'est un roc. C'est un pic. C'est un cap. Que dis-je, c'est un cap ? C'est une péninsule.
Vous allez me persécuter comme ça combien de temps ?
Conjuguer le verbe élire au futur antérieur.
Oh putain, c'est bon. Vous élirez. Alors attends.
Comment avez-vous eu l'idée de cette émission, Caroline ?
C'était une idée qui me tenait à cœur depuis longtemps. J'ai mis très longtemps à réussir à ce qu'elle existe, vraiment. En fait, j'ai travaillé pendant 6 ans sur une petite chaîne politique qui s'appelle Public Sénat. Donc, j'ai toujours été confrontée à la matière politique et aux interviews politiques. Et j'ai souvent été frustrée par ce qu'on appelle la langue de bois et des réponses un peu décevantes des hommes politiques qui arrivent avec un discours tout prêt, quelle que soit la question que vous leur posez. Et vous avez beau essayer d'être le meilleur intervieweur possible, vous avez souvent toujours les mêmes réponses et pas beaucoup de sincérité, parfois. Et j'étais convaincue parce que j'ai une petite fille qui avait l'âge des enfants d'Au Tableau. J'étais convaincue que le questionnement très direct, très naïf et parfois un peu déstabilisant d'un enfant, c'était un des moyens de casser cette langue de bois et d'obtenir un autre discours, d'autres, les forcer aussi à changer leurs mots, leur vocabulaire, parce qu'on s'adresse pas à un enfant de la même façon qu'on s'adresse à un journaliste. Donc, j'étais sûre que ça marcherait. Après, ça a mis longtemps à exister. Ça a d'abord existé en Belgique avant d'exister en France parce que la télévision belge a été peut-être plus audacieuse, a aimé l'idée et a décidé de l'essayer. Et en France, l'élection présidentielle de 2017 a rendu vraiment nécessaire cette envie d'un autre discours, de voir les politiques autrement et d'essayer de les voir de manière plus vraie, plus sincère. Et voilà, c'est arrivé et ça a été un succès incroyable. Et après, on a continué sur 3 saisons en ouvrant un peu le casting à d'autres invités que des politiques, des artistes, des sportifs, des chefs d'entreprise. Et ça a fait une collection d'émissions que j'adore et dont je suis très fière.
Donc, vous avez dans un premier temps reçu des candidats à l'élection présidentielle de 2017, tels qu'Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, François Fillon et Benoît Hamon. Comment est-ce qu'ils se sentaient avant de passer au tableau devant les enfants ?
Ils étaient très stressés, en général. Ils ne savaient pas quel système jouer. C'est très impressionnant, en fait, de se trouver face à une classe d'écoliers. Pour certains, ils n'étaient pas retournés à l'école depuis très longtemps. Et quand on est seul face à une classe, et ben c'est impressionnant. Et ils étaient tous stressés. Après, ils en sont plus ou moins bien sortis, suivant les invités. Mais je sais qu'ils l'ont tous pris au sérieux et pour eux c'était un exercice, en plus parce qu'il était très nouveau et très différent, c'était un exercice qu'ils appréhendaient, même s'ils avaient très envie de le faire.
Et lequel est-ce que vous avez senti le plus à l'aise avec les enfants ?
Emmanuel Macron était incroyablement à l'aise, non seulement dans sa façon de s'adresser à eux, il était très simple, il s'adressait avec des mots qu'ils comprenaient, il avait donné l'impression d'être vraiment très sincère, et puis il s'est mis à leur hauteur, il s'est assis à califourchon, à l'envers sur une chaise, il a enlevé sa veste, il était en bras de chemise, enfin, il était vraiment très très à l'aise. Les enfants ont ri, il y avait une ambiance très décontractée, très agréable pendant ce moment, et il s'en est sorti vraiment haut la main.
Et quand vous avez proposé ces émissions à ces personnes, est-ce qu'ils ont dit tout de suite oui ou avant ils étaient un peu réticents?
Ça dépend lesquels. Certains ont été tout de suite très emballés, d'autres il a fallu les convaincre. J'y allais un peu au bluff, hein. Je leur disais à chacun que tout le monde venait sauf eux, donc ils étaient obligés de venir alors que j'avais personne au début, mais je suis allée un peu au bluff. Et finalement, ils sont tous venus, sauf Marine Le Pen qui a jamais voulu venir et qui a refusé je ne sais combien de fois notre invitation. Elle a jamais voulu se produire.
Et comment est-ce que les enfants sont-ils choisis pour faire cette émission ?
Alors, il y a eu un casting qui était renouvelé quasiment à chaque émission, parce que l'idée, c'est qu'on garde la sincérité et la spontanéité des enfants et qu'ils ne deviennent pas des petits journalistes professionnels, parce que ça perdait son intérêt. Parce que s'ils faisaient trop d'émissions en affilée, après, ils prenaient des automatismes et ça perdait tout l'enjeu de l'émission qui était de les avoir dans leur spontanéité, dans leur franchise. L'âge, 8 et 12 ans, on cherche des enfants curieux, qui s'intéressent à tout, qui sont impertinents, et qui, surtout pas des apprentis comédiens ou des enfants qui absolument veulent faire de la scène ou passer à la télé. C'était vraiment leur curiosité, leur faculté d'interroger qui nous intéressait. Et puis aussi qu'ils viennent de toute la France et qu'ils soient représentatifs de la diversité de la société française. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a fait un casting très soigné.
Et comment est-ce qu'elle se passe la préparation de l'émission avec les enfants ?
En fait, à chaque fois, je vois les enfants plusieurs fois en petits groupes. Parce qu'il y a une partie des questions qui sont réfléchies à l'avance. Et puis une partie qui est spontanée, puisque c'est au moment de la rencontre que les questions naissent. Donc, pour chaque émission, on recevait normalement 3 invités. Donc, je divisais ma classe en 3 groupes d'une dizaine d'enfants, enfin, d'une, même pas, 6-7 enfants par groupe. Et chaque groupe préparait un invité. Ça fait que quand on se retrouvait à enregistrer l'émission, il y avait un tiers de la classe qui avait préparé et les 2 autres tiers qui avaient préparé un autre et qui donc étaient vierges, entre guillemets, enfin, n'avait pas préparé l'invité. Donc comme ça faisait un mix de questions qui avaient été préparées et d'autres de questions qui venaient comme ça au fil de la conversation. Et chaque groupe qui préparait un invité, c'était sur plusieurs séances. Donc ça commençait au départ, je leur donnais le plus d'informations possibles sur l'invité, des choses connues et moins connues, très orales, hein, c'est pas du tout en classe, j'ai pas de tableau et c'était une transmission orale. J'essayais de les nourrir en informations, le plus d'informations possibles sur leur vie publique, privée, enfin voilà, les anecdotes, leur enfance, enfin tout ce que je pouvais recueillir comme information. Et de ces informations fleurissaient leurs questions que je cueillais toutes, donc je prenais en note toutes leurs questions qui leur venaient au fur et à mesure. Après, on les choisissait ensemble parce qu'on pouvait pas évidemment pas toutes les poser. Il y en avait qui se répétaient, il y en avait qui étaient moins intéressantes. Et moi, j'essayais de mettre un ordre pour que ça ressemble quand même à quelque chose, enfin qu'il y a un déroulé. Et puis aussi, c'était à eux de choisir. Bah, il y a une séquence centrale dans cette émission qui est la séquence au tableau où l'invité doit expliquer au tableau avec les craies en écrivant ou en dessinant sur le tableau un mot ou une expression. Donc évidemment, c'est eux qui choisissent le sujet, le petit cadeau clin d'œil qu'on fait à l'invité à la fin, les questions d'interro surprise. Enfin voilà, il y a des rubriques récurrentes et ce sont les enfants qui choisissent tout ça en travail de groupe, comme si on était en classe quelque part, pour qu'ils décident eux de ce qu'ils vont demander à leur invité.
Donc il y a un vrai travail en amont avec les enfants pour que ce soit préparé, mais pour que ce soit quand même spontané.
Bah, ça reste, c'est toujours leur question à eux, mais certaines, ils y ont réfléchi à l'avance, puisqu'ils ont été informés sur l'invité. Et puis, il y en a une partie qu'ils posent parce qu'elles leur viennent à l'esprit au moment où ils rencontrent l'invité. C'est vraiment un mix entre des questions spontanées et des questions auxquelles ils ont réfléchi avant. Mais ce sont toutes leurs questions à eux.
Et alors, il y a eu 3 saisons de cette émission, vous avez reçu plein d'autres personnalités, et parmi eux, il y a eu Kylian Mbappé, qui lors de son passage avait promis aux enfants de les inviter à un match du Paris Saint-Germain. 1 an après qu'il soit venu dans l'émission, il a tenu sa promesse, et c'est aussi le cas pour Emmanuel Macron, qui a invité les enfants à visiter l'Élysée. Christophe Castaner les a lui invités au ministère de la Défense. C'est extraordinaire pour eux de vivre des moments comme cela.
Christophe Castaner, ministre de la Défense. Ils ont aussi Jean-Michel Blanquer au ministère de l'Éducation nationale. Oui, c'est vrai que c'est une chance. Ils s'en rendent compte. Ils ont conscience de la chance qu'ils ont déjà de rencontrer ces personnalités, de pouvoir les interroger, de leur poser tout ce qu'ils veulent. Ils ont carte blanche et moi je leur dis souvent que c'est eux qui ont le pouvoir parce que c'est eux qui déstabilisent leur invité. Donc, ils se rendent compte que de la chance qu'ils ont. Et puis, c'est vrai que ces rencontres un peu privilégiées dans les lieux de pouvoir, dans les différents ministères ou même à l'Élysée, ouais, ça a été des moments assez à part, vraiment spéciaux.
Et l'émission a suscité un réel engouement puisqu'elle a été adaptée en Belgique, en Nouvelle-Zélande, en Espagne, en Italie, en Pologne, en Hollande et en Arabie Saoudite. Qu'est-ce que cela vous fait de voir votre émission, celle que vous avez créée, adapté à l'étranger dans plein de pays?
Ouais, dans une dizaine de pays, bah, ça me fait une émotion immense, une très grande fierté. J'y vais à chaque fois, j'accompagne mon bébé dans chaque pays. J'y vais en général juste 2 jours pour le premier enregistrement. Et puis, je suis beaucoup en contact aussi en amont avec les productions du pays qui les adaptent pour leur donner des conseils, pour leur ce qui est chouette, c'est qu'à chaque fois, c'est différent parce que c'est adapté au pays dans lequel c'est fait. Mais il y a quand même, évidemment, c'est la même émission. Donc, il y a quand même un socle commun et un esprit commun qu'on retrouve à chaque fois. C'est hyper émouvant pour moi. Je parle à chaque fois avec les enfants dans chaque pays. Ils me posent beaucoup de questions. Ils sont tous, ils me remercient à chaque fois parce qu'ils sont tous très fiers. Et de la même façon, juste avant, on parlait de la chance des petits Français qui ont participé, bah eux, ils ont conscience aussi dans leur pays de cette chance de pouvoir rencontrer et interroger des personnalités du premier plan. Donc c'est toujours très très riche de discuter avec eux, de voir comment ils voient les choses, de les suivre, de les regarder. C'est beaucoup d'émotions à chaque fois et beaucoup de fierté.
Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote sur cette émission?
Oh là là, des anecdotes, j'en ai 1000. Là, comme ça, vous me prenez un peu au dépourvu. Qu'est-ce que je peux vous raconter comme avec un invité en particulier? Je sais pas. Bah, par exemple, Kylian Mbappé, vous m'en parliez.
Oui.
Au début, j'ai eu très très peur parce que Kylian, il avait 19 ans quand il est venu. C'est le plus jeune des invités qu'ils ont reçus, mais je pense que c'est celui qui les a le plus impressionnés. On n'entendait pas une mouche voler. Il y avait un silence total dans la salle de classe. Ils étaient tellement, tellement, tellement ému, excité, fier de rencontrer Kylian Mbappé, qui était même pas encore champion du monde. Alors, si c'était après la Coupe du Monde, ça aurait été encore pire. Et au début, Kylian, qui a pas beaucoup l'habitude de cet exercice et qui s'exprimait moins dans les médias, faisait des réponses ultra courtes, 3 mots, je crois. Et donc c'était question, réponse, hyper courte, question, réponse. Et le conducteur filait comme ça. Je me suis dit, oh là là, on va faire 10 minutes d'émission, ça va être une catastrophe. Parce que ça déroulait, j'avais des sueurs froides. Et bon, finalement, après, tout le monde s'est un peu déridé et puis on a eu une super émission et ça a duré largement assez longtemps. Après, voilà, il y a eu des moments vraiment chouettes. Enfin, on a vu de l'éducation nationale parce qu'on avait appris par une indiscrétion qu'il avait été DJ dans son enfance, dans sa jeunesse. Donc les enfants lui ont donné des platines pour qu'il mixe. Ça, c'était aussi c'était drôle. Enfin, quand on a reçu François Fillon pendant la campagne présidentielle de 2017, là aussi, on a eu des sueurs froides parce que les enfants poser des questions qui n'étaient pas du tout prévues sur sa femme. On était en pleine affaire Pénélope Fillon. Et finalement, il a répondu de bonne grâce à tout. Ah oui, Bernard Tapie aussi. Bernard Tapie, c'était assez dingue parce que c'était... quand il est venu dans Au Tableau, on l'avait pas vu dans les médias depuis très longtemps. Il est venu parler évidemment de son combat contre la maladie. C'était une grande chance de le recevoir. Mais Bernard Tapie, c'est Bernard Tapie, quoi. Il avait son caractère. Et donc, je crois qu'au bout de 7 minutes, il m'a dit, bon, ça y est, c'est fini, là, je peux y aller. Et alors qu'il nous en avait fait même pas un quart de l'émission. Donc, j'ai passé mon temps à lui dire, non, pas tout de suite. Il y a encore des questions. Il voulait partir à chaque fois parce que soit ça lui plaisait pas, soit il trouvait ça trop long. Bon, au final, il est resté jusqu'au bout et il a été absolument formidable. Il était, c'était un témoignage de sa force de combat et de sa force de caractère vraiment hyper précieux. Et j'ai eu peur qu'il parte avant la fin plusieurs fois.
Comment cela se passe, une journée de tournage pour Au Tableau ?
Une journée de tournage, c'est assez intense. Ça se passe toujours le week-end, puisque comme les enfants viennent de toute la France, c'est forcément un jour où ils n'ont pas école. C'est un week-end, on tourne dans une école à Saint-Ouen, en région parisienne, en banlieue parisienne. Une superbe école qui nous accueille à chaque fois. Très joliment et on répartit les invités pour que en fonction bien sûr de leur agenda et de leurs possibilités mais pour qu'il y ait de grandes pauses pour les enfants, il y a des grandes récrés, ils mangent, ils goûtent, ils jouent sur place, enfin ils s'amusent beaucoup entre deux tournages et voilà, on arrive le matin, on enregistre souvent un invité le matin, ensuite il y a la pause récré, déjeuner, un autre invité l'après-midi, puis on recommence le dimanche. On répartit ça sur 2 jours et c'est des moments très intenses, très fatigants pour nous, où les enfants, je crois, s'amusent beaucoup, mais c'est beaucoup d'émotions et des super souvenirs à chaque fois.
Est-ce qu'il y a une personne que vous n'avez pas encore reçue dans l'émission, mais que vous aimeriez beaucoup qu'elle vienne ?
Oui, bien sûr, il y en a une dont on a beaucoup parlé, c'est Brigitte Macron, qu'on aurait beaucoup aimé recevoir, surtout que je pense qu'elle serait absolument formidable dans cet exercice. C'est une ancienne professeure, pas ancienne d'ailleurs, elle est toujours professeure. Et en plus, sa parole a une très grande portée, et je pense qu'elle serait formidable avec les enfants. Donc, pour l'instant, je regrette qu'elle soit pas encore venue, mais je baisse pas les bras. Nicolas Sarkozy a failli venir à plusieurs reprises et puis finalement ça s'est pas fait. Après, il y a plein de personnes. Puis il y a toujours des personnalités nouvelles qui émergent, donc on sera ravi quand l'émission reviendra de recevoir ces nouvelles personnalités. C'est ça qui est génial, c'est sans fin. Mais on a une très grosse exigence au niveau du casting d'invités. Ce sont que des personnalités de premier plan dans leur domaine, quel que soit leur domaine.
Alors moi, personnellement, j'adore cette émission. Je trouve le concept génial. C'est toujours très intéressant de voir des personnalités se faire interviewer par des enfants, et d'autant plus quand c'est des politiques, puisque c'est intéressant de voir comment ils réagissent, comment ils formulent leurs réponses. Et j'ai toujours rêvé de faire cette émission. Alors j'attends beaucoup de la réponse à la question que je vais vous poser. Est-ce qu'Au Tableau va revenir pour de nouvelles émissions ?
Moi, j'aimerais beaucoup qu'Au Tableau revienne en 2022 pour la prochaine présidentielle. Voilà, c'est le rendez-vous que je vous donne.
Eh bien, avec grand plaisir, et je regarderai.
j'espère bien.
Dans quelques instants, nous entamerons la dernière partie de cette émission avec vous, Caroline Delage. Mais pour le moment, c'est l'heure d'une pause musicale avec Philippine, N'importe quoi sur Just for Fun.
Si j'ai du noir sous les yeux, si j'ai une sale dégaine, si tout me paraît brumeux comme dans un mauvais rêve, si je te vois quand t'es pas là, je crois que je fais n'importe quoi. Si je parle encore de nous deux, si je parle au pluriel,
C'est parce que nous c'était mieux qu'un jeu seul et cruel. Quand je dis que je vais mieux sans toi, ne me crois pas, je dis n'importe quoi. Et ta main se serre dans la mienne, et plus rien, de façon à quoi ça mène. C'est rien que de la poudre aux yeux, jamais sérieux.
Ouais, c'est n'importe quoi.
Si j'ai des cernes sous les yeux et la voix qui déraille, c'est que les nuits durent trop peu à rejouer nos batailles. Trop fatigué, ne plus penser, plus faire n'importe quoi. Si par hasard tu reçois des messages à rallonge, dis-toi que ce n'est pas moi, c'est mes mains qui racontent. Peut-être que c'est mieux comme ça. C'est faux, c'est beau, mais c'est n'importe quoi. Et ta main se serre dans la mienne, et puis plus rien, de façon à quoi ça mène. C'est rien que de la poudre aux yeux, jamais sérieux. Ouais, c'est n'importe quoi. Et ta main se serre dans la mienne, et puis plus rien, de façon à quoi ça mène. C'est un peu de la poudre aux yeux, jamais sérieux. Ouais, c'est n'importe quoi.
J'ai pas ce qu'on attend, moi je trouve ça malsain. Cette histoire mancale où rien n'est certain. Mais c'est vrai, c'était bien.
C'est vrai, c'était
quand des ombres chinoises dansaient sous les draps, dessinaient des corps qui ne mentaient pas. C'est vrai, c'était bien.
C'est vrai, c'était.
Et puis y'a ton parfum mélangé au mien, l'espoir du matin d'une histoire sans fin. C'est vrai, je voudrais bien.
C'est vrai, je voudrais.
Que s'ouvre la porte, un dernier refrain, et passer mes doigts dans tes cheveux bruns. C'est vrai, je voudrais bien.
C'est n'importe quoi.
Et ta main se serre dans la mienne, et plus rien, de façon à quoi ça mène. C'est rien que la poudre aux yeux, jamais sérieux. Ouais, c'est n'importe quoi.
Nous sommes de retour sur Just for Fun, vous êtes toujours dans l'émission en tête à tête avec. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être accompagnée par Caroline Delage pour une interview. Est-ce que ça va toujours, Caroline ?
Ça va super.
Vous êtes marraine de l'association Un enfant par la main. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette association ?
Oui, bien sûr, c'est une association que j'aime beaucoup, qui encourage donc, enfin propose à tout le monde de parrainer un enfant dans différents pays à travers le monde pour l'aider à ce qu'il aille à l'école, parce que chez nous en France, l'école elle est obligatoire et gratuite, et ça semble évident d'aller à l'école, mais ça l'est pas du tout dans beaucoup beaucoup de pays à travers le monde. Et voilà, cette association a l'œuvre pour que tous les enfants du monde aillent à l'école, pour les aider à pour que les écoles soient construites déjà, soient entretenues, qu'il y ait parfois des toilettes, un toit, des professeurs, pour aider à la scolarisation des enfants dans le monde. Et ce qui est formidable, c'est que par rapport à d'autres associations, vous contentez pas de verser une somme tous les mois pour aider l'association. En fait, là, c'est concret puisque vous devenez parrain ou marraine d'un enfant avec qui vous avez des contacts par lettre. Qui vous envoie, enfin des échanges de courriers évidemment. L'association organise même hors Covid évidemment des voyages de parrains chaque année pour que les parrains puissent aller rencontrer leurs filleuls dans leur pays. Et donc c'est vraiment concret, on a vraiment le contact avec une famille, avec un enfant, et on voit à quoi sert l'argent qu'on verse. On a le sentiment d'être utile, et on aide une famille à l'autre bout du monde de manière très efficace et très concrète.
Alors, vous avez produit un documentaire autour du harcèlement scolaire. Il sera diffusé sur Canal+, aux alentours de la rentrée scolaire de septembre. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Peut-être avant. On n'a pas encore la date de diffusion. Ce sera peut-être avant septembre. Oui, c'est un très joli film qu'on est en train de terminer, dont je suis très fière, sur le harcèlement scolaire, qui est un sujet qui me tient à cœur et sur lequel je voulais faire quelque chose depuis très longtemps, réalisé par Chloé Garel. Une toute jeune réalisatrice que j'ai beaucoup de plaisir à accompagner. Et là encore, comme dans tous les programmes que j'essaie de porter, c'est un film qui se veut proposition de solution constructive. Donc on suit 6 collégiens de la banlieue parisienne, de l'Essonne, qui vont partir à la découverte de différentes méthodes qui sont mises en place un peu partout en France pour lutter contre le harcèlement scolaire et éradiquer la violence. Le harcèlement, ça touche quand même 700 000 enfants chaque année. Ça peut conduire à des drames comme des suicides. Ça concerne absolument tout le monde. Et c'est loin de diminuer, au contraire, avec les réseaux sociaux, avec les téléphones, le cyberharcèlement prend le pas sur le harcèlement et ça fait que ça ne s'arrête jamais, y compris quand on n'est plus à l'école. Donc c'est un vrai sujet qu'il faut absolument prendre à bras le corps, ça me tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur. Et là, on essaye de proposer des solutions, de montrer qu'il y a des choses qui existent, qui sont efficaces et que ça vaudrait le coup de s'y pencher et de les mettre en place. Et donc, nos 6 collégiens de 5e, ils ont une marraine dans leur aventure, qui est Inès Reg, qui les suit tout au long de leur découverte, qui les accompagne. Inès, elle a grandi en Essonne aussi. Elle est originaire de Grigny. Elle était dans le même lycée que celui où ils vont aller. Elle a été harcelée quand elle était enfant et elle est absolument formidable avec nos 6 collégiens.
Vous faites beaucoup de choses. Vous faites beaucoup de choses avec les enfants. Tout à l'heure, nous avons parlé d'au tableau. Juste avant, nous avons parlé d'un documentaire que vous avez produit autour du harcèlement scolaire. Et vous avez aussi produit une série documentaire qui a été diffusée en octobre sur Canal+, Une vie d'écart. Dans cette série documentaire, des enfants de maternelle passent 6 semaines dans un EHPAD et découvrent les joies et les misères d'être vieux. D'où vous vient cet attachement pour les enfants et pour la jeunesse ?
L'éducation, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus fondamental dans une société. Donc, tous ces sujets, finalement, sont des sujets éducatifs. Oui, le lien intergénérationnel, ça apporte bien sûr beaucoup aux personnes âgées qui reprennent goût à l'existence, qui retrouvent un but dans leur vie. Mais ça apporte énormément aux enfants de 4-5 ans qui sont venus tous les jours pendant 6 semaines dans cet EHPAD. Donc, c'est aussi pour moi une méthode pédagogique puisqu'on voit à quel point ils se transforment et le bien que ça leur fait. Le harcèlement, bien sûr, apprendre à être, c'est beaucoup plus important, enfin au moins aussi important que d'apprendre à savoir. Donc le savoir-être à l'école, c'est un sujet fondamental sur lequel on n'insiste pas assez, donc c'est aussi un sujet éducatif. Au tableau, c'est aussi un sujet éducatif. Donc voilà, l'éducation pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est pour ça d'ailleurs que je suis marraine de l'association Un enfant par la main, comme vous le disiez. Et puis après, les enfants en eux-mêmes. Bon, déjà, moi, je suis une très heureuse maman de 2 filles qui m'inspirent énormément au quotidien. Et puis, je trouve que le regard des enfants a beaucoup à nous apporter à nous adultes quand on le prend pour ce qu'il est, à sa hauteur, sans le regarder par au-dessus ou par en-dessous. Juste tel qu'il est, brut, spontané. Je trouve qu'ils ont une naïveté, une spontanéité, une franchise, un côté sans filtre qui est absolument formidable et qui apporte beaucoup de richesse à notre société. Et c'est ce regard-là, cette parole-là que j'ai envie de mettre en lumière.
Est-ce que vous avez des envies futures ?
J'en ai plein. J'ai énormément de projets en développement. Pas que avec des enfants d'ailleurs, hein, oui. Parce que je travaille pas non plus qu'avec des enfants. Donc il y a beaucoup de projets en développement. Le tout, c'est évidemment de trouver, de réussir à les placer chez un diffuseur. C'est toujours un long parcours, beaucoup de persévérance. Mais en général, je suis assez animée parce que ce sont des programmes qui ont un enjeu qui me tient vraiment à cœur. Donc je les défends avec beaucoup de force et de cœur.
Et pour terminer, j'ai une dernière question. Quel conseil donneriez-vous à un jeune comme moi qui veut devenir animateur radio ?
Je trouve que vous êtes débrouillé déjà super bien, donc je ne sais pas si j'ai beaucoup de conseils à vous donner, mais bravo parce que votre interview était très travaillée, très documentée. On voit que vous avez préparé le sujet, donc ça c'est très agréable. Je trouve ça déjà formidable d'avoir créé une radio, de proposer des programmes. Vous savez très bien prendre contact et aller chercher les invités que vous avez envie d'aller chercher. Donc, continuez, pratiquez, faites-vous plaisir, défendez des sujets qui vous plaisent et puis ça ira tout seul, je ne fais pas de soucis.
Bien, merci beaucoup, ça me fait très plaisir en tout cas. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation dans cette émission, ça m'a fait très plaisir de vous recevoir et c'était très intéressant.
Merci à vous, à bientôt.
À bientôt. Quant à vous, chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 21h sur Just for Fun pour un nouveau numéro en tête à tête avec. D'ici là, passez une belle soirée, prenez soin de vous, à bientôt.
J'étais pas le même vendredi. T'avais pas non plus croisé ma vie. J'étais pas pareil à gueuler sous la pluie. Je t'ai attendu, vois-tu, et depuis. C'est pas demain la veille que je maudirai le réveil. Et réveille-moi si je ne m'émerveille pas. devant la vie que l'on a. Tant qu'on vit tous les deux, pas demain la veille, que je maudirai le soleil, car le soleil c'est toi, et moi solennel pour une fois. Je ris pas. Oh, oh. On peut voir le monde en tout petit, ou s'aimer toute la vie. Je ris pas. On peut voir le monde en tout petit, moi je t'aimerai toute la vie, pour de vrai. T'es tout ce que j'ai. Est-ce qu'on sera les mêmes toute la vie? Même rire aux lèvres et même envie. On fera mentir l'époque, on va quitter Paris. Puis je te chanterai en cloque en attendant le petit. Je ris pas. Oh, oh. On peut voir le monde en tout petit, ou s'aimer toute la vie. Je ris pas. On peut voir le monde en tout petit, où je t'aimerai toute la vie, pour de vrai. T'es tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai. Et les coups de poing, les coups de vieux, je veux qu'on les prenne à deux. Dis les coups de poing, les coups de vieux, je veux qu'on les prenne à deux. Et les coups de poing, les coups de vieux, je veux qu'on les prenne à deux. Dis les coups de poing, les coups de vieux, je veux qu'on les prenne à deux. J'y vais. Oh, oh. On peut voir le monde en tout petit, ou s'aimer toute la vie. Je ris pas. On peut voir le monde en tout petit, moi je t'aimerai toute la vie, pour de vrai. T'es tout ce que j'ai.